おかしい、おかしい。キーキーキ
ー。J'ai le bon sens congolais avec la langue.
Bonsoir, polémique entre le ministre national de l'économie et certaines entités décentralisées autour de l'instauration de nouvelles taxes. Qu'est-ce qui est à la base de cette polémique et comment y remédier ? Trois invités participent à cette émission. Dieudonné Fikiri Alimassi, directeur de cabinet au ministère de l'économie et ancien directeur études et recherches à la Banque centrale du Congo. Monsieur Fikiri, bonsoir. Vetem Kikukikamba, député national du Bas-Congo, député provincial pardon, du Bas-Congo. Il est initiateur d'une motion incidentielle sur la note circulaire du ministre de l'économie portant annulation sur la taxe sur l'embarquement et le débarquement des marchandises. Honorable Kikukikamba, bonsoir.
Bonsoir.
Maître Tudi Kimputu Alimassi, analyste et expert en décentralisation. Maître Tudi, bonsoir.
Bonsoir.
Vos réactions, chers auditeurs, nous les avons déjà. Jean-Pierre Kambale de Kisangani en province orientale. La réaction est vraiment positive du fait que le gouvernement central, par le biais du ministre de l'économie, s'est ressaisi, même si c'est un peu tard, pour interpeller certains gouverneurs qui sont en train de créer des taxes qui pèsent sur la population. Imaginez que quelqu'un qui quitte Kisangani à destination de Bafoué-Sendé à 262 km doit payer 1000 francs congolais pour le tourisme. Maurice, je suis très content que le ministre Boulambo ait pris cette mesure, car les taxes ne font qu'augmenter les prix des biens et services et c'est la pauvre population qui en paie les frais. En plus, les taxes ne font qu'enrichir des individus, car souvent on voit des quittances photocopiées ou inexistantes. Bienvenue à tous dans votre émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Interdiction par le gouvernement congolais de créer des taxes non reconnues dans la nomenclature fixée. Le ministre de l'économie estime que la création de ces nouvelles taxes tend à anéantir l'action du gouvernement en décourageant les potentiels investisseurs. Selon lui, la RDC étant un État unique, les exécutifs provinciaux n'ont pas de prérogative ni le pouvoir de créer une quelconque taxe. Quelles sont ces taxes proposées par certains gouvernements provinciaux à la base de cette polémique? Des éléments de réponse avec vous, Samuel Kachak.
Premier cas à noter, c'est cette taxe sur l'embarquement et le débarquement de produits manutentionnés dans les installations portuaires du Bas-Congo, créée le 22 septembre dernier par l'Assemblée provinciale de cette province. Cette taxe a été qualifiée d'illégale par le ministère de l'économie nationale. Ce dernier avait exigé son annulation pure et simple. La réaction de l'Assemblée provinciale du Bas-Congo n'a pas tardé. Dans une lettre de protestation adressée au ministère de l'économie nationale, l'Assemblée provinciale a rejeté la décision de Kinshasa. Pendant ce temps, en province orientale, le ministère de l'économie a dénoncé dans une note circulaire la création de la taxe sur le stockage des produits pétroliers par la direction des recettes de la province orientale. Même attitude des députés de la province orientale qui rejette la décision du ministère national de l'économie. Ils ont voté par ailleurs un édit autorisant la DRPO à percevoir la taxe sur le stockage des produits pétroliers. Selon le ministre de l'économie, la propension observée depuis quelques temps de créer de nouvelles taxes tend à stopper l'action du gouvernement dont les efforts ont été couronnés par l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative Pays pauvres très endettés. Ensuite, indique encore le ministre, loin de contribuer à améliorer le climat des affaires, la propension des taxes décourage les potentiels investisseurs car la RDC demeure un État unique et que les exécutifs provinciaux n'ont pas de prérogatives ni le pouvoir de créer une quelconque taxe.
Merci Samuel Kassak. On écoute cette fois-ci le ministre de l'économie réagissant à cette polémique. Jean-Marie Boulambo Kilosho est au micro de Justine Moussaou Kondé.
La note circulaire, elle est une note circulaire pour rendre publique une décision. La décision est du Conseil des ministres de la République. Ce n'est pas une décision du ministre de l'Économie nationale. Le gouvernement de la République est indivisible. est chargé de définir en collaboration, en concertation avec le chef de l'État, la politique de la nation dans tous les domaines. Il existe cependant le pouvoir central et le pouvoir provincial, tous les deux tournant les yeux vers le Premier ministre. Vous ne pouvez pas parler de ce que le gouvernement provincial du Bas-Congo refuserait d'obtempérer. La Constitution de la République dit clairement ceci. Quand un édit de province est contraire au texte réglementaire du gouvernement central, il s'annule automatiquement. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, il s'agit de la loi suprême de la nation. Le port de Matadi n'est pas une propriété de la province du Bas-Congo. Le port de Matadi est construit par l'argent de la République. Il est inconcevable qu'un gouvernement provincial s'arroge de taxer les produits des autres provinces qui passent par la propriété commune.
Honorable Vetem Kifukikanda, je rappelle que vous êtes député provincial du Bas-Congo, initiateur d'une motion présidentielle sur la note circulaire du ministre de l'Économie portant annulation de la taxe sur l'embarquement et le débarquement des marchandises. Qu'est-ce qui explique d'après vous cette polémique entre le ministère national de l'Économie et certains exécutifs provinciaux?
Merci beaucoup pour la parole que vous m'accordez. Et de plus d'abord, je voudrais faire voir à son Excellence, Monsieur le Ministre, qu'une circulaire se passe. Une circulaire, c'est une note prise par une autorité supérieure adressée aux collaborateurs, c'est-à-dire aux subalternes. Je ne sais pas si, d'après lui, dans son entendement, l'Assemblée provinciale ou l'exécutif provincial est sous la tutelle du ministère de l'Économie, c'est-à-dire que sont ses subordonnés. J'ai dit non, c'est-à-dire à qui il donne les ordres, parce que nous sommes dans un système maintenant à moitié fédéral. C'est-à-dire, le grand problème ce soir, c'est dans le fait même où son Excellence, Monsieur le Ministre, confond ce test et CD. Or, depuis que nous avons voté la Constitution, dans son article 3, les provinces ne sont plus des ETD. Les provinces, ce sont des entités régionalisées. Donc, si le ministre lise la Constitution dans son exposé au paragraphe 3, il va se rendre compte qu'il est en train de violer volontairement la loi. Et il a aussi intérêt de lire la loi 08/012 du 31 juillet 2008. Il va voir à quel niveau il est en train d'induire le gouvernement de la République en erreur.
Alors, honorable, quand vous parlez des ETD pour les auditeurs, c'est-à-dire entités territoriales décentralisées...
Les ETD signifient entités territoriales décentralisées.
Voilà, mais...
Vous allez voir que les entités territoriales décentralisées, ce sont les secteurs, la commune et les chefferies. Mais la province, c'est une entité régionalisée qui réalise la Constitution. Article 3.
Alors, donc, c'est cette disposition de la Constitution qui, d'après vous, vous autorise à travers des édits à instaurer de nouvelles taxes.
La Constitution est claire dans son article 204.7 parmi les matières exclusives des provinces. Nous donne le pouvoir de créer des impôts, des taxes et droits provinciaux et locaux. Il lise paisiblement la Constitution dans son article 204.16. Et puis, il renvoie aussi à la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces qui lise l'article 35.9. Et l'article 33, 34, 35, 36 de la même loi.
Honorable Vetem, mais il y a certains observateurs qui reprochent quand même qui vous reprochent d'avoir de manifester une certaine arrogance dans le traitement de cette question vis-à-vis du ministre national de l'Économie.
Moi, je dirais que c'est parce que je soutiens le chef de l'État. Surtout quand on prône aujourd'hui la tolérance zéro. C'est-à-dire, pour moi, je définis la tolérance zéro, c'est l'application de la loi est de la Constitution. Quand le ministre se permet de violer la Constitution, de violer la loi, en tout cas, je me permets de dire, de prendre ce ton-là. C'est-à-dire, nous devons aider les autorités de ce pays et surtout mettre en application notre Constitution et nos lois.
Merci beaucoup, honorable Vetam Kikanda, Dieudonné Sikiri. Vous êtes directeur de cabinet au ministère de l'économie, ancien directeur réputé des recherches à la Banque centrale du Congo. L'honorable Kifu Kikanda, que vous venez de suivre, fait allusion à l'article 204 de la Constitution, le point 16. J'ai le texte sous les yeux, le point 16 dit ceci. Les impôts, les taxes et les droits provinciaux et locaux, notamment l'impôt foncier, l'impôt sur les revenus locatifs et l'impôt sur les véhicules automoteurs, font partie, sans préjudice de l'autre disposition de la Constitution, des matières de la compétence exclusive des provinces. Alors vous, comment vous expliquez cette politique?
D'abord, je voudrais apporter une précision. Je voudrais souhaiter d'abord que nous puissions apporter la correction comme le ministre de l'économie nationale venait de le dire. Ici, il ne s'agit pas d'une polémique entre le ministère de l'économie nationale et le gouvernement provincial. Il s'agit plutôt d'une décision du Conseil des ministres, comme l'a dit le ministre de l'économie nationale, et la circulaire prise par le ministre de l'économie nationale n'a été qu'un support. Un support de transmission de la décision du Conseil des ministres. Et si vous lisez cette circulaire, vous constaterez que nulle part il y a une décision du ministère de l'économie nationale. J'ai bien dit portant diffusion de la décision du Conseil des ministres. Bon, maintenant, si l'honorable Pétain, sur cette terre, il y a eu violation de la loi, si je dis. La circulaire n'a été qu'un courroie de transmission, la décision du Conseil. Cette décision du Conseil a d'abord été lue par le porte-parole du gouvernement. Il a dit, le Conseil s'est réuni et a arrêté une série de décisions. Le ministre de l'économie nationale étant responsable de la politique des prix et de la production, n'a fait que transmettre cette décision au niveau de différents gouvernements provinciaux, pour qu'ils puissent comprendre que les choses ne doivent plus se passer comme par le passé. Alors, maintenant, je voudrais revenir d'abord sur l'intervention de l'honorable. Il faut retenir d'abord une chose. Les gouvernements nationaux, tout gouvernement d'un pays, poursuit à travers sa politique économique l'objectif de plein emploi. En fait, l'amélioration du mieux-être du bien-être de sa population. Dans le mieux-être de la population, il n'y a pas à distinguer le mieux-être de la population du Bas-Congo, le mieux-être de la population de la province orientale, le mieux-être de la population de la ville de Kinshasa, par exemple. C'est la raison pour laquelle, au début de chaque exercice, au début de chaque année, le gouvernement se présente devant le Parlement. Un Parlement entendu comme Assemblée provinciale, Assemblée nationale et Sénat, avec un projet de budget adopté au niveau du Conseil des ministres. Mais dans le contenu de ce budget, intègre également le budget provincial. À travers les budgets provinciaux qui définissent en recette un crédit auquel correspond les dépenses à être exécutées dans le cadre budgétaire. Tous ces budgets provinciaux sont remontés au niveau central, intégrés dans le budget national, dans le projet du budget national, qui est présenté d'abord à l'Assemblée nationale pour débat et adoption, et ensuite au niveau du Sénat. Une fois adopté au niveau du Parlement, c'est le président de la République qui prend un décret-loi pour autoriser l'exécution du budget, aussi bien en recettes qu'en dépenses. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que l'ensemble des textes juridiques qui accompagnent la détermination de l'assiette et de recettes à mobiliser
se trouve contenu dans ce budget et ça a une force de loi en termes d'exécution. Et à partir de ce budget national, il peut être en équilibre comme il peut être en déséquilibre. S'il est en équilibre, il permet de mettre en place un cadre macroéconomique. Ce cadre macroéconomique reprend, je peux vous dire, par exemple pour l'année 2010. Si vous regardez les niveaux du PIB attendu, qui prévoyait d'abord un taux de croissance de 5,4%. Ce 5,4% était assis sur les exportations à hauteur de 42,7% du produit intérieur brut, sur les importations de 71,1% du produit intérieur brut. Tout cela fait partie de la politique de production que le ministère de l'économie nationale suit. Alors, toute perturbation au niveau provincial ou au niveau national, qui ne rentre pas dans cette politique cadrée dans le cadre macroéconomique, peut perturber l'objectif poursuivi, à savoir le bien-être de la population.
Alors, Dieu donné, Sikiri, oui. L'honorable Vetem Sifuki Kanda a évoqué des dispositions constitutionnelles. On sait que la Constitution est claire, hein, elle définit clairement les différentes compétences. Alors, sur quelles dispositions le gouvernement central se base-t-il pour avancer tous ces éléments que vous donnez?
Je viens de dire ceci. Je viens de dire que quand le budget des provinciaux sont commués en budget national au niveau du Parlement et promulgués par un décret loi du chef de l'État qui autorise l'exécution du budget en recettes et en dépenses, c'est déjà une loi financière qui s'impose à tout le monde. Les édits provinciaux pris en cours de route, comme c'est le cas avec les taxes embarquement, je voudrais savoir, ces édits-là, est-ce qu'ils ont repris le même chemin que le premier édit? Ça veut dire aller passer d'abord par l'Assemblée provinciale, ensuite remonter au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat, et qui nous disent quel est le collectif budgétaire qui a été arrêté et sur base de quel texte légal les autorisations ont été données pour que ces édits-là s'exécutent.
Merci, merci. Permettez que je vous arrête à ce niveau. Maître Soudi, vous êtes analyste et expert en décentralisation. Quelle est votre analyse à ce stade du débat?
Merci beaucoup. J'aimerais d'abord que l'opinion puisse retenir que ça, c'est un vrai débat de la décentralisation. Je suis très heureux de constater qu'il y a maintenant une prise de conscience de toutes les parties prenantes à cette décentralisation que nous avons commencé à mettre en œuvre depuis un certain temps dans notre pays, avec la promulgation de la Constitution de 2010. Et moi, je pense que le problème est ailleurs sur cette question. Que ce soit au niveau du pouvoir central, qui a tendance à retenir les compétences, que ce soit au niveau provincial, qui a aussi tendance à aller vite en besogne, il faudra qu'il trouve un intérêt d'enfant. La province a trois natures de ressources. Des ressources propres, des ressources provenant de l'État à caractère national, et des ressources exceptionnelles, comme le dit la loi sur la libre administration des provinces. Ici, je prends le cas de la taxe sur l'embarquement et le débarquement des produits mal intentionnés dans les installations portuaires de la province. C'est quelle nature de taxe? Ça relève des ressources propres de la province. Lorsque la province prend conscience pour créer cette taxe-là en vue de rendre utile les ressources propres, ne peut pas attendre l'exécution du budget. Non, c'est une initiative qui peut être prise, c'est toute l'exécution qui peut attendre. Mais là, il y a un problème. Il s'agit ici d'une taxe spécifique. Et si vous jetez un coup d'œil sur la législation relative à la libre administration des provinces, cette taxe spécifique est prélevée sur les matières locales non imposées par le pouvoir central. Alors, elle fait allusion à une législation sur la nomenclature des taxes et droits provinciaux. Mais la loi a mis un préalable.
c'est préalable, c'est-à-dire que c'est les règles qui concernent la perception de cette taxe spécifique-là, parce que la taxe ici, l'embarquement, le débarquement ne peut pas être perçu dans une province qui n'a pas encore un travail. Parce que je vais vous donner un exemple contraire. Les règles de perception de taxes spécifiques sont fixées après avis de la conférence du gouverneur des provinces, par une loi fixant la nomenclature des recettes locales. C'est là où il y a le problème. Les deux n'ont pas évoqué cela. Parce que la même taxe, si vous voyez le cas de Kinshasa ici, aller dans le port, la ville de Kinshasa perçoit cette taxe. Tout simplement parce que les marchandises qui débarquent ici, dans la ville de Kinshasa, ne sont pas perçues dans un port qui est une frontière, par exemple, où les gens payent la douane, et ainsi de suite. Mais le port de Matadi a un régime exceptionnel. C'est là où il y a le problème. Et je le situe au niveau de l'interprétation des textes. Et il faut même encourager ce débat pour que et le pouvoir central et les provinces puissent à un moment donné se retrouver pour avoir une bonne lecture des dispositions légales sur les compétences exclusives qui reviennent à chaque partie. Ici, cette compétence revient, de créer cette taxe spécifique à la province, revient à la province. Mais est-ce que la province a agi en conformité avec l'article 51, je parle sous contrôle du financier, je pense que c'est une taxe spécifique à la province du Congo. Est-ce que cette taxe-là a été créée conformément à l'article 51 de la loi sur la libre administration? C'est là où il y a des problèmes et j'aimerais que nous puissions recentrer les débats. Aller vers faire souffrir la Constitution encore ou revenir sur d'autres dispositions, nous sommes loin. Si l'Assemblée provinciale est compétente, c'est créer une taxe qui relève de ses compétences, qu'est-ce qu'il dit? Mais est-ce qu'elle a respecté le préalable légal? Voilà le problème.
Alors, Maître Soudi, vous évoquez l'article 51. Que dit cet article pour que nous puissions avoir une idée, ainsi que les auditeurs qui nous suivent?
L'article 51 donne des précisions sur les modalités de perception de la taxe spécifique à chaque province. C'est une illustration de la taxe sur l'embarquement et le débarquement des produits mal intentionnés dans le Bas-Congo. La province estime que c'est une taxe qui est instituée par elle, à travers ses organes constitutionnels, conformément à une compétence exclusive. Je crois que l'honorable a évoqué ce cas. Mais la loi dit ceci. Les taxes spécifiques à chaque province sont prélevées sur les matières locales non imposées par le pouvoir central. Elles sont soit rémunératoires, soit fiscales, conformément à la législation sur la nomenclature des taxes et des droits provinciaux. Cette législation, elle est nationale ou locale, mais il y a la ligne 2 qui vient préciser en disant que les règles de perception des taxes spécifiques sont fixées après avis de la conférence des gouverneurs des provinces par la loi fixant la nomenclature des recettes locales. Donc le préalable ici pour moi, c'est cette loi fixant la nomenclature des recettes locales qui doit fixer juste les règles de perception, mais la province est libre de créer.
Honorable Vétem, vous venez de suivre Maître Soudi et Dieudonné Fikiri. Avez-vous respecté les préalables dont vient de parler Maître Soudi?
Je voulais dire d'abord que quand il s'agit d'une décision prise au niveau des conseils des ministres, je crois que nous avons l'attitude de suivre les comptes rendus faits par les ministres de l'information. Mais nous n'avons jamais entendu cet état de choses-là. Pendant que le ministre de l'économie fait allusion aux budgets qui sont exécutés. Mais je vous informe présentement que tout le budget, disons, le budget de l'année passée, s'est exécuté à 5%. Même aujourd'hui, il vient de déposer encore un budget là-bas qui va s'annoncer de meilleurs. Mais pendant que le budget 2010 est utopique, anticonstitutionnel, irréaliste, maintenant, celui de 2011, mais le meilleur, en quoi? Est-ce que réaliser 16% par rapport à 100%, c'est pas le meilleur budget? Moi, je dis non. Et je dis encore, il prend le conseil des ministres comme, c'est là où il a eu le pouvoir de prendre une note circulaire et avec une note. Est-ce qu'une note circulaire a le pouvoir d'abroger tout inédit pris par une assemblée? Je dis non. En tout cas, le ministre est en train de confondre ce que c'est une loi et ce que c'est une loi. Donc, d'après lui, une loi c'est une loi, mais une loi n'est pas une loi. Ça, ce n'est pas ça. C'est-à-dire, la loi c'est au niveau national et une loi c'est au niveau provincial. Donc, c'est pour cela il peut lire la Constitution dans son article 197, où l'Assemblée provinciale légifère par voie d'édit. C'est dit clairement dans l'article 197, si vous autorisez, parce qu'on n'a pas de temps, vous pouvez dire, elle légifère par voie d'édit. C'est ce que dit la Constitution. Et dans son article 43, la loi 008/012, vous direz que les finances du pouvoir central et celles des provinces sont distinctes. C'est clair, vous pouvez le lire dans l'article 43, les finances du pouvoir central et celles des pouvoirs sont distinctes. Je ne peux pas vous induire dans ce qu'est lui croit. Pendant que Kokatanga, Kasumbalesa, la même espace est perçu, il y a encore mon ami qui vient de le dire qu'au niveau de Kinshasa c'est perçu, et pourquoi pas ici au Bas-Congo, juste la politique de deux poids, deux mesures. La loi sur la nomenclature des recettes n'a pas toujours été prise au niveau de Kinshasa, mais il y a des pouvoirs distincts qui doivent le mettre en tête.
Honorable Kifuki Kanda, Maître Soudi a posé une question précise. Avez-vous respecté les préalables?
Nous avons respecté la procédure parce que nous donne les pouvoirs, la loi 08 nous donne les pouvoirs et nous avons respecté la loi. Au moins qu'ils nous disent le contraire. Qu'est-ce que dit la loi 08/012 dans son article 35.9? Qu'est-ce que dit la Constitution dans son article 204.16, si dans ces deux lois-là, la Constitution et cette loi, ces points-là ne sont pas respectés, là nous sommes condamnables. Mais si nous l'avons respecté, est-ce qu'il n'a qu'à retirer? Tout bonnement, ça sera notre circulaire.
Dieudonné Sikiri, je vous ai vu hausser négativement la tête en signe de désaccord. Vous avez la parole.
Non, je crois que nous devons recentrer le débat. Et je l'ai bien dit de départ. Je dis ceci, tout gouvernement poursuit l'objectif d'améliorer les conditions de vie de sa population. Et c'est pour cela que le gouvernement définit un cadre macroéconomique. Je vous ai dit, par exemple, pour l'année 2010, nous nous attendons à un taux de croissance de 5,4%, qui a été remonté, d'ailleurs, revu à 6. Maintenant, vous vous imaginez si chaque province, en cours de route, se mettrait à créer des taxes,
comme c'est le cas d'ailleurs,
comme c'est le cas aujourd'hui, ça perturbe même l'objectif macroéconomique poursuivi par le gouvernement. Parce que des taxes créées en dimanche, c'est source d'inflation. Et le ministère national de l'économie ne peut pas autoriser qu'on s'écarte parce que les gens ont la compétence légale. Personne n'a remis la compétence légale d'une assemblée provinciale, d'un gouvernement provincial de prendre un édit portant création d'une taxe. Mais nous disons que les taxes ne peuvent pas se créer en cours d'un exercice budgétaire. Parce que, en termes macroéconomiques, ça gêne la politique économique qui est nationale. C'est ça que nous disons. Nous disons si l'Assemblée provinciale, les gouvernements provinciaux du Bas-Congo estiment que les taxes à l'embarquement ou au débarquement au niveau du port de Matadi, devraient revenir aux provinces, à la province du Bas-Congo, et n'a qu'à préparer les textes. Et dans ces prévisions budgétaires, caler les recettes attendues à ce titre aux dépenses, parce qu'une taxe prise peut avoir une contrepartie économique. Sinon, alors, c'est une taxe mobilisée. Pourquoi? Et or, la contrepartie économique, c'est ça la dépense, ça doit être contenu dans le budget qui est voté et duquel découle le cadre macroéconomique qui régime le bien-être de la population. Ça veut dire de tout le monde, pas seulement le Bas-Congo, mais tout le monde, dans tout le coin, sous l'étendue de la République. C'est ce qu'on est en train de dire.
Voilà, avant de donner la parole à Maître Soudi, prenons cette question d'auditeur.
Killer à Nyonga de Mbune, en province orientale. Les officiers ne se sentent pas compte des conséquences de ces polémiques avec le ministre national de l'économie, notamment par la hausse des prix sur les marchés et les réalisations moins visibles tombent sur la population, notamment par la hausse des prix sur les marchés et les réalisations moins visibles.
Maître Soudi, réaction.
Je vais d'abord revenir sur ce que l'honorable a dit. Je crois que seule la compétence énumérée ne suffit pas. Il faut voir les modalités de mise en œuvre de cette compétence. Nous sommes dans le domaine des transferts de compétences. Il y a des compétences qui ont été transférées par la Constitution, qui sont susceptibles d'être sélectionnées automatiquement, mais d'autres compétences ont des préalables, qui sont des lois nationales, qui doivent prévoir la modalité pratique de mise en œuvre de ces compétences. Dans les cas d'espèce, et peut-être un tout petit peu contrairement à ce que le directeur de cabinet a dit, on peut créer une taxe au cours de l'exercice budgétaire, mais peut-être l'exécution de la taxe doit apparaître dans le budget à venir. Là, il n'y a pas de problème. Si nous sommes en présence d'un cas pratique. J'ai évoqué l'illustration de la taxe sur l'embarquement et le débarquement. Je reviens encore sur la disposition légale. La taxe spécifique à chaque province. Ici, la province du Bas-Congo pense que cette taxe-là, c'est une taxe spécifique à sa province. Mais il y a un problème. La matière taxable, elle ne doit pas faire l'objet d'une imposition par le pouvoir central. Tout ce qui entre par le port de Matadi est déjà l'objet d'une imposition par le pouvoir central. Et si la province vient y ajouter, c'est là qu'il y a un problème. Je crois que c'est ça que le cabinet devait évoquer. C'est là qu'il y a un problème, parce que la loi est claire là-dessus. Deuxièmement, même pour d'autres cas, d'autres taxes spécifiques, il y a un préalable légal. Les règles de perception de ces taxes-là spécifiques doivent être fixées par une loi sur la nomenclature des recettes locales après discussion dans une conférence de gouverneurs. Tout ça n'a pas été fait. Alors, moi, je suis seulement content de l'éveil des assemblées provinciales sur ce genre de questions. Mais seulement, ils doivent maintenant observer scrupuleusement ce que la Constitution et les lois disent. Dans le cas spécifique pour la province du Bas-Congo, il y a un petit couac. C'est-à-dire, cette matière-là, qui fait l'objet de la taxe, est déjà imposée par le pouvoir central à travers les droits de douane, les offices de contrôle, et ainsi de suite. Et quand on vient d'y ajouter cela, ça devient, mais ça viole un tout petit peu la loi en cette matière. Donc ici, il y a les devoirs. Quant à l'acte pris par le ministre, bon, on m'a parlé d'une circulaire, mais je crois que même la Constitution dit que le ministre statue par voie d'arrêté. Il devait tout simplement prendre un arrêté pour sursoir à l'exécution de ce que c'est parce que la Constitution dit qu'un édit contraire aux lois et règlements nationaux est nul et de nul effet. Donc il y a un problème de nature d'acte à France. Je crois que la circulaire c'est juste pour appeler au bon sens, il faut prendre un acte positif, et puis ça n'y a rien.
Merci. Merci. Honorable VTM Kifuki Kanda, vous avez suivi également la préoccupation de cet auditeur Ilera Genonga de Bunia, qui dit que cette polémique, finalement, c'est la population qui paye le prix avec une taxation un peu désordonnée. Permettez l'expression.
Moi, je voudrais dire que d'abord une note circulaire ou sa lettre ou le plein pouvoir d'abroge et dit. Je dis non. Et quand ce n'est pas, il dit que nous venons de prendre une taxe en cours de l'exercice budgétaire. Je voudrais savoir auprès de son excellence, monsieur le ministre, quel est le temps voulu dans la Constitution pour prendre une telle initiative? Nous venons de faire déjà 4 ans de notre mandat. Il nous reste un an, c'est la fin du mandat. Donc, c'est-à-dire qu'il fallait attendre la législature prochaine ou bien il fallait amorcer le processus. Cela est faux et archi faux. nous avons pris notre dit par rapport à la loi, parce que les prérogatives des provinces sont établies et par la Constitution et par la loi. Donc, la politique macroéconomique nationale n'a jamais donné à la province les moyens de sa politique. Tout ce que le ministre est en train de confirmer doit être basé sur la loi, mais pas sur sa littérature, une littérature qui est illégale et anticonstitutionnelle. Et puis on note aussi une dose de la dictature tendant même à supprimer la décentralisation des députés provinciaux et des assemblées provinciales. Et ils arrivent déjà à ça. C'est la dictature qu'on a décriée. Or, tout notre circulaire, c'est lui vient de prendre cette circulaire, tant à moi, ainsi que les opérateurs économiques, à ne pas payer, et c'est ce qu'on appelle l'incitation, le civisme fiscal.
Merci.
Et il faut penser la suite.
Voilà, prenons cette deuxième question d'auditeur.
Robert Mahomé, à Bukavu, au sud Kivu. Moi, je pense que les entités administratives décentralisées n'auront pas du tout tort d'agir ainsi, car, par exemple, comment pourront-elles bien fonctionner sans la rétrocession de 40% sur les recettes du trésor public réalisées en province, mais curieusement non encore effectives?
Alors, Dieudonné Fikiri, vous avez suivi cet auditeur, mais aussi, que faut-il hein, pour décanter finalement cette divergence de vue entre le gouvernement central et les provinces?
Mais vous comprenez que le problème réside au niveau de la compréhension. C'est ça que je comprends. C'est que, d'une part, la solution passe par la compréhension de la problématique qui nous partage.
Un problème de communication. Mais donc,
c'est ce que j'ai dit. Voilà. Et je pense qu'en réalité, la discussion devrait être élargie aux exécutifs provinciaux, pour qu'ensemble, nous puissions avoir la même lecture et le même entendement des textes. Je reviens à ce que l'analyste de la décentralisation, Maître Soudi, a dit, et je suis content d'une chose. Il a relevé le cas de double imposition, qui a un impact macroéconomique négatif. Il y a un auditeur,
et ça retombe sur la population.
Ça retombe sur la population. Ce n'est pas faire la politique du bien-être de la population. Il a également dit que, effectivement, les gouvernements provinciaux, avec leurs assemblées provinciales respectives, ont la compétence légale de créer la taxe. Mais quant à l'exécution, il faudrait attendre la loi portant autorisation, dont je parlais ici, parce que même les budgets qui sont exécutés aujourd'hui au niveau provincial, ces budgets sont exécutés à la suite d'un décret loi pris par le chef d'État, après adoption au niveau du Parlement. Ici, ils ont créé leur taxe d'embarquement et de débarquement en septembre 2010, presque vers la fin de l'exécution budgétaire. Moralité, et ils passent à l'exécution. Pourtant, l'analyste venait de dire, effectivement, il n'est pas interdit de créer la taxe. Et l'analyste a continué en disant, j'aurais dû dire qu'en fait, les assemblées provinciales devaient harmoniser pour éviter la double imposition. Raison pour laquelle j'ai dit dans mon intervention, qu'en fait, il n'est pas interdit à la province de créer sa taxe, mais quitte à intégrer cela avec l'édit qui accompagne les crédits budgétaires, donc les crédits budgétaires en recette, attendus au titre de cette taxe, dans son projet budgétaire 2011, par exemple, et remonter avec cela au niveau du Parlement. À ce moment-là, si à ce niveau, les débats autorisent et constatent qu'en fait, il n'est pas question que ce type de taxe revienne au pouvoir central, mais plutôt au pouvoir provincial, un arbitrage sera fait et le toilettage sera également fait au niveau du budget national, ce qui éviterait d'aller vers ce que j'appelle travailler contre le mieux-être de la population, qui est l'objectif poursuivi par la politique économique d'un gouvernement.
Voilà. Maître Soudi, êtes-vous également d'avis qu'une communication beaucoup plus élaborée serait la solution à ce type de crise, si pour l'appeler ainsi?
Oui, d'une part, mais de l'autre, la solution efficace, c'est que, désormais, je déplore le retard du pouvoir central sur la la présentation de la loi sur la nomenclature des ressources locales. Il y a un travail de fourmi à faire. Les provinces doivent se retrouver avec les entités territoriales décentralisées, les entités territoriales décentralisées, pour harmoniser sur la nomenclature des taxes relevant de leurs ressources propres au niveau provincial. Puis, le pouvoir central doit se retrouver autour d'une table avec les provinces pour harmoniser. Je sais qu'il y a un projet de loi qui est soit en fait de finances ou de budget, qui est en train de se préparer dans ce sens, mais ça doit être discuté à fond par les experts des provinces en vue de la présenter rapidement à une conférence de gouverneurs qui devra absolument être convoquée dans un bref délai pour résoudre ce genre de problème. Il faudra que ce texte qui sera adopté par la conférence de gouvernance soit le résultat d'une discussion de fond entre le pouvoir central et les provinces, parce que la constitution, dans le cadre de l'exercice du principe de la liberté, donne à la province qui est pratiquement une entité régionalisée la possibilité de discuter, conformément à la constitution, des principes, des lois qui régissent les compétences exclusives qu'elles vont exercer. Alors la solution efficace, c'est cette loi-là qui va fixer la nomenclature des recettes provinciales et locales et qui va permettre ainsi que cette situation soit décrite. Au-delà de ça, nous allons assister toujours à ce débat, mais moi je pense qu'il ne faudra pas que les gens trouvent ce débat comme un bruit inutile. C'est tout à fait normal. Après beaucoup d'années de centralisation, allons dans une décentralisation beaucoup plus accentuée avec la notion du régionalisme. Nous allons assister plusieurs fois à ces débats et c'est bien. Et moi, je pense que la solution, c'est cette loi-là.
Merci, Maître Soubi. Honorable Vétem Kifuki Kanda, quelle serait la solution d'après vous pour décanter cette situation au-delà de ce qu'a proposé, ce qu'ont proposé Maître Soubi et de Denis Sikiri? Ah, nous avons quelques soucis avec la ligne de l'honorable Kifuki Kanda. Entre-temps, il y a des auditeurs du Denis Fikiri. Il y a Fikiri Saïdi Papi qui nous écrit d'ouvrir ensuite qui ouvre votre homonyme. Pourquoi le ministère national de l'économie a attendu l'application de l'EDI pour prendre la décision? Augustin Mwango de Kalima Omanyema, je pense que cette polémique montre combien de fois dans notre pays on privilégie les intérêts personnels au lieu de respecter les textes, car là où chacun respecte ses prérogatives, on ne peut parler de polémique, mais j'ai l'impression que nos autorités sèment souvent la confusion dans la création tant des ministères que des différentes structures de l'État. Blaise Ostongo de Kananga au Cassé Occidental, cette polémique est-elle liée aux bénéfices et pourcentages que cherche à tirer chacun des échelons dans la nomenclature à venir? Imurani Sapro de Kingo Maniema et encore, nous encourageons la démarche du gouvernement central de décourager toute initiative tendant à ternir l'image de notre pays. Pourquoi créer des taxes non reconnues? N'est-ce pas là l'extorsion de la population et des opérateurs économiques? Que le gouvernement fasse un suivi pour arrêter ce système de données qui tire. Un mot sur ces quelques réactions d'auditeurs et ainsi que votre conclusion.
Ben écoutez, moi, tout ce que je peux dire, c'est qu'en réalité, on doit voir dans les approches suivies de part et d'autre l'objectif poursuivi sur lequel-là. Pour les cas d'espèce, vous comprenez que le ministère de l'économie nationale, à travers les gouvernements, reste dans cette prérogative qui consiste à veiller au mieux-être de la population. Ici, ce qui est poursuivi, c'est quoi? C'est d'éviter la déstabilisation du cadre macroéconomique à travers une augmentation des prix intérieurs.
Merci. Maître Soubi, votre conclusion également.
La conclusion est que la population doit comprendre que la décentralisation, c'est le développement local. Ce n'est pas surtout ce que la majorité des auditeurs a dit, que le pouvoir central doit réguler. C'est tout à fait normal. Mais les recettes qui sont exclusives aux provinces, la loi doit permettre à ce que les provinces puissent percevoir ces recettes-là et les répartir à leurs entités territoriales décentralisées. Parce que l'objectif principal de la décentralisation, c'est le développement local. Mais tout doit se faire dans les règles déjà établies par la Constitution et les lois.
Merci.
Dans notre cas d'aujourd'hui, il faut absolument que les provinces et le pouvoir central discutent pour mettre sur pied la loi sur la nomenclature de taxes, parce que c'est ça que la loi a brillé avec les dispositions.
Merci, Maître Soudi. C'est par vous que nous terminons cette émission. Je rappelle que vous êtes analyste et que, analyste expert en décentralisation. Merci à Dieudonné Fitieri, directeur de cabinet du ministre de l'Économie, et à l'honorable VTM Kifou Kikanda. Bonne suite au programme sur Radio Capi.
Focus, focus, focus.